Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Pesticides, parabènes, conservateurs, notre environnement est envahi de produits chimiques qui empoisonnent notre quotidien. D'ailleurs, bien souvent sans que l'on s'en rende vraiment compte. Alors cela va des produits cosmétiques en passant par la pollution dans les grandes villes ou encore par exemple l'utilisation d'additifs alimentaires. De nombreux produits ont en fait un impact sur notre santé. Aujourd'hui, les spécialistes font le lien entre l'exposition des individus aux polluants et le développement de certaines maladies comme les cancers, l'asthme, le diabète ou encore les problèmes d'infertilité. Alors, comment les éviter? Doit-on changer radicalement de mode de vie? Quels sont les éléments les plus dangereux? Et d'ailleurs, où en sont les recherches pour montrer le lien entre ces produits chimiques et un certain nombre de maladies? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Jean Lefèvre, qui est cardiologue et médecin de l'association Santé Environnement France. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Abou Thiam, qui est biologiste et coordinateur régional de Pesticide Action Network à Dakar, au Sénégal. Et pour terminer, on parlera des résultats d'un essai clinique sur le baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance.
RFI.
Docteur Jean Lefèvre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct d'Aix-en-Provence, dans les studios de France Bleu Provence. On constate qu'il y a, par exemple, de plus en plus d'enfants asthmatiques. Est-ce que c'est lié à la pollution des grandes villes ?
Oui, ça. Enfin, la pollution des grandes villes intervient dans le sens où dans les grandes villes, on a de plus en plus de pollution par en particulier les microparticules qui ont comme particularité de pénétrer dans l'arbre bronchique, donc d'irriter les alvéoles pulmonaires. Les particules encore plus petites, au-dessous de 2,5 micromètres, peuvent même passer dans la circulation sanguine et entraîner une inflammation au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui va entraîner des maladies cardiovasculaires. Donc au niveau des maladies pulmonaires, effectivement, la pollution de l'air entraîne et aggrave toutes les maladies pulmonaires et en particulier l'asthme. Il y a une potentialisation entre d'une part par exemple quelque chose de naturel comme les pollens qui vont entraîner l'augmentation des maladies allergiques et en même temps la pollution atmosphérique qui vient potentialiser, qui vient entraîner par elle-même l'aggravation de ces crises d'asthme.
C'est ça, quand on dit potentialiser, c'est que ça aggrave tout simplement le phénomène. Donc, des gens qui ne seraient pas forcément devenus allergiques, mais qui le deviennent à cause de ça.
Voilà, ça ne fait pas que ça a une action propre, allergisante, on va dire, et en même temps, des facteurs naturels qui sont allergisants par eux-mêmes vont l'être encore plus en présence de... En présence de microparticules et de pollution atmosphérique.
Donc ça, ce sont des conséquences pulmonaires dont vous nous avez parlé, mais vous avez évoqué aussi des conséquences cardiologiques.
Oui, on s'aperçoit maintenant que les conséquences cardiologiques sont pas les moindres, cardiologiques et vasculaires. C'est-à-dire que les microparticules sont classées. On appelle ça les PM10, ce sont toutes celles qui sont inférieures à 10 micromètres et qui ont la particularité de passer les barrières des sinus du nez et donc qui pénètrent dans l'arbre bronchique. Les particules qui sont plus petites que 2,5 micromètres, qui elles sont tellement petites qu'elles vont passer la barrière des alvéoles et passer dans le sang. Et maintenant, on arrive maintenant avec les nouvelles techniques à mesurer des particules encore plus petites qui sont de 1 micromètre qui, elles, pénètrent aussi et vont... toutes ces particules qui pénètrent dans la circulation sanguine entraînent d'une part une inflammation qui favorise l'athérosclérose. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, cette pollution devient, dans les villes très polluées ou dans lesquelles on est exposé tous les jours à ces pollutions, ça devient un véritable facteur de risque au même titre que le tabagisme passif.
Et ça, ce que vous venez de nous dire sur les conséquences pulmonaires ou cardiovasculaire, je veux dire, l'ensemble des chercheurs, la profession médicale sont d'accord là-dessus. Il y a une unanimité.
Il y a des milliers de publications, de travaux qui ont montré ce fait. Et en fait, si vous voulez, maintenant, ça devient acquis, mais on continue à progresser dans ce facteur de risque de pathologie, puisque à l'heure actuelle, on est en train de s'apercevoir, il y a des études qui sortent sur le fait que non seulement cette inflammation favorise l'athérosclérose en tant que telle, mais il semble y avoir un lien aussi avec l'augmentation du diabète et de l'hypertension artérielle.
Oui, et
qui sont des facteurs de risque, et qui sont, le diabète devient actuellement, avec d'autre part, l'alimentation, la vie sédentaire, etc., un problème de santé publique majeur. Il semblerait que la pollution atmosphérique et les microparticules, en particulier inférieures à 2,5, jouent leur rôle, peut-être pas le plus important, mais jouent leur rôle.
Aussi un rôle. Mais ce que, dans la question que je vous posais, c'est pour qu'on fasse bien la différence entre des choses sur lesquelles absolument tout le monde est d'accord, et sur la question de l'asthme et des maladies cardiovasculaires, il n'y a plus de doute, et puis d'autres sur lesquelles on est encore en recherche et en phase de compréhension.
Voilà. Wow. Si vous voulez, sur l'hypertension et le diabète, on est en train de s'en apercevoir. Hein, il semblerait. Voilà, on va être sur les autres plans, c'est certain.
C'est confirmé. Voilà, c'était important de préciser la différence.
Vous savez, c'est pas pour rien que à Pékin, on a arrêté toutes les usines autour de la ville pendant les Jeux Olympiques.
Absolument, parce qu'il y avait, on le voit hein, d'ailleurs quand on est à Pékin, vraiment ce nuage de pollution, et on le sait dans beaucoup de grandes villes des pays du Sud aussi, il y a des problèmes équivalents. Les auditeurs sont nombreux. Alors,
cette pollution a plusieurs facteurs. Hein, ouais. Je veux dire, c'est pas uniquement les voitures. Oui. Hein, il y a la pollution industrielle, bien évidemment. Hein. En France, ça représente à peu près 30% de la pollution. Il y a le bois. Mmh. Hein, on oublie aussi, c'est quand même assez important. Hein, les engrais. Hein, dans les campagnes, etc. Et les transports qui représentent à peu près 15%. Dans ces transports, il y a les microparticules dues aux échappements, mais aussi on s'aperçoit maintenant qu'il y a aussi les microparticules dues aux freins, aux pneus, à l'usure voilà.
Et c'est très intéressant ce que vous avez dit sur les pesticides, parce que sur le dernier pic de pollution à Paris, où d'un seul coup, quand même, pendant quelques heures, Paris est devenue la ville la plus polluée au monde, c'était quand même important de le signaler, on a retrouvé aussi des pesticides. Paris n'est pas une région agricole, mais de pesticides qui venaient des régions aux alentours.
Ben oui, bien sûr, parce que par contre, autour de Paris, ce sont des régions très agricoles où l'usage des pesticides pose problème. Donc, au gré des vents, si vous voulez, tout ça se mélange et se potentialise.
On y reviendra hein, d'ailleurs après sur l'impact de ces pesticides sur notre alimentation, sur les légumes qu'on consomme. On a Mokhtar qui nous appelle d'Abidjan. Mokhtar, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour les restes de filles.
On vous écoute Mokhtar, parlez bien près du téléphone pour qu'on vous entende.
Oui, oui. Bon, je suis un bijoutier, je suis à Abidjan.
Oui.
Et puis je travaille avec des produits tels que les acides chlorhydriques, nitriques. Et puis on pratique aussi des polissages. Souvent en faisant les filtrages pour séparer l'or avec les autres produits par rapport aux acides chlorhydriques ou bien nitriques. Ça dégage des fumées vraiment très difficiles à respirer. Et vous savoir quel impact ça a dans notre santé.
Et je voudrais juste vous demander, Mokhtar, est-ce que vous mettez des petits masques pour vous protéger?
Oui, juste des masques en papier.
Mais on ne sait pas si c'est très efficace. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de dire, docteur Jean Lefebvre?
Ben là, si vous voulez, quand on parle d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique, on est au-dessus de la pollution. C'est plus un
produit. Enfin, ce sont des produits toxiques.
L'acide chlorhydrique, c'est un produit toxique et dangereux. Donc, vous pensez bien que s'il y a des microparticules, des gouttelettes, un nuage d'acide chlorhydrique, ça a une action d'un acide à l'intérieur des bronches, à l'intérieur de la trachée, si les particules sont suffisamment petites. Alors, disons que peut-être il n'y a pas tant que ça de micro-particules qui passent le nez, mais déjà au niveau des sinus, c'est extrêmement agressif, l'acide chlorhydrique, c'est un poison.
Comment se protéger? Est-ce qu'il y a des masques efficaces?
C'est-à-dire, il y a des normes, théoriquement, hein, je veux dire, dans les ateliers, il y a une aération, il y a une ventilation, il y a des masques, il y a des techniques. Bon, après, dans quelle mesure c'est appliqué, ça c'est plus difficile. Hein, mais normalement, un atelier où on a des vapeurs d'acide chlorhydrique, il y a une ventilation, une aspiration de l'air près de l'endroit où se dégagent ces choses-là. Il y a des techniques.
Hein. Et mettre des masques efficaces. Quels sont les risques pour la santé? Est-ce qu'on sait un peu les risques pour la santé? C'est quoi?
De quoi?
De ces produits-là. De ces produits toxiques. Quels sont les risques pour la santé?
Comme l'acide chlorhydrique?
Oui, oui.
Ah ben ça vous brûle.
Oui, c'est ça.
C'est de l'acide.
C'est de l'acide.
Hein, je veux dire, c'est autre chose que les microparticules, quoi. Hein, c'est...
D'où l'importance c'est de se protéger. Oui. Merci voilà. Mokhtar pour votre question. On a Françoise qui nous appelle de Pavilly en Haute-Normandie. Françoise, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour.
Alors, moi, j'ai plusieurs réflexions à faire sur le sujet. Alors, notamment au sujet des meubles. Parce que, bon, depuis plusieurs décennies, en fait, on a affaire sur le marché à des meubles qui sont fabriqués avec des agglomérats de bois de bas de gamme, en général, avec un certain nombre de produits chimiques, dont des colles. Et il se trouve que ces meubles-là, quand ils sont livrés, quand ils sont neufs, au moment où ils sont montés, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, ils laissent dans l'atmosphère une pollution dans l'air qui est, paraît-il, extrêmement dangereuse. Enfin, bien plus dangereuse qu'on ne le soupçonne, en tout cas. Alors, je voudrais savoir s'il ne serait pas possible, par exemple, d'exiger des fabricants qu'ils mettent sur leur carton, en gros, évidemment, hein, que ce soit lisible, que ce soit qu'on puisse pas passer à côté quand on achète ces meubles-là et qu'on les monte, pour demander aux gens d'aérer et de ventiler les pièces pendant au moins une semaine quand ils ont fait le montage de ces meubles.
Alors, je vais vous faire réagir à ça. D'abord, Jean Lefebvre, parce que je crois qu'après, Françoise voulait aussi rajouter quelque chose. Effectivement, Jean Lefebvre, la colle qui est utilisée peut être nocive dans ces meubles.
Tout à fait. C'est un problème. C'est le problème de la pollution de l'air intérieur dans lequel, effectivement, ces meubles actuels, avec de l'aggloméré, posent un gros problème. En France, 25% des logements, à peu près, hein, ont des taux de composés organiques volatiles 10 fois plus élevés qu'à l'extérieur. C'est énorme.
C'est ça, hein, en fait. On a du mal à l'imaginer, mais la pollution dans les maisons est plus importante à la limite que la pollution extérieure.
Ça arrive souvent, et à cause de ça en particulier. Du fait aussi que l'air n'est pas renouvelé. Hein. Donc tout ça, ça mijote, hein, et forcément, dans les meubles, comme vous dites très bien, il y a de la colle, hein, et en particulier, il y a du formaldéhyde, qui est cancérigène connu, prouvé, tout le monde, enfin, c'est classé comme ça, hein, et il y a des produits de ce type associés, ce qui font que il y a du benzène, il y a du xylène, c'est des choses qui
et
sont...
Que propose Françoise de dire les fabricants devraient mettre sur l'emballage qu'il faut aérer?
Elle a tout à fait raison. L'aération, c'est extrêmement important. La première chose à faire d'abord, c'est le consommateur. Quand il achète ses meubles, il faut pas les déballer parce que souvent les meubles maintenant, enfin il y a en particulier une maison bien connue qui vend les meubles à monter à la maison. Hein, donc il faut aérer la pièce, il faut pas que les enfants quand on déballe tout ça et quand on le monte, il faut que la pièce soit aérée, il faut essayer que les enfants n'y aillent pas pendant... Il faut la laisser aérer à peu près une journée, hein, 24 heures. Hein, voilà, ça c'est au niveau disons du consommateur. Au niveau des magasins, il faudrait, et ça c'est... Certains commencent à en être conscients, hein, il faudrait d'abord une éducation des vendeurs, des gens qui des commerciaux, hein, et il faudrait des explications, mais ces explications ne sont pas encore suffisantes. Je suis tout à fait d'accord avec cette
dame. Et docteur Jean Lefebvre, est-ce que l'aération suffit, ou est-ce qu'en fait, de façon peut-être encore plus prudente, pour des enfants, il faudrait éviter ce genre de meubles?
Éviter ce genre de meubles, vous savez,
compliqué.
C'est toujours pareil. Le problème, c'est...
C'est le coût.
Si on pouvait tout faire, ce serait formidable. Hein, si on avait l'argent pour tout faire exactement comme il faut, ce serait parfait. Je crois qu'on est obligé toujours d'avoir un compromis et d'être conscient des inconvénients de ce qu'on achète. Si on peut acheter, se passer de ces meubles, c'est bien. Je veux dire, bon, maintenant, ils ont des avantages, ces meubles. Hein, c'est qu'ils sont quand même moins chers, ils sont plus faciles à changer. Voilà. Hein, ce qui fait que
c'est
difficile
compliqué
de dire qu'il faut s'en
jamais.
Passer.
Tout à fait.
Hein, voilà. Par contre, il faut être conscient de ça.
Tout à fait. Françoise, vous aviez autre chose que vous vouliez rajouter, je crois.
Oui, alors j'ai deux choses, en fait. Au sujet des meubles, quand même, moi, je trouve quand même assez dommageable, mais là, c'est pas un problème de pollution, mais plus un problème de consommation en règle générale. Je trouve quand même dommageable de se retrouver à acheter des meubles qu'on met un mal de chien à monter, mais bon, ça, c'est encore
autre chose.
On peut en faire des sketchs, c'est déjà bien. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est quand même assez lamentable de voir qu'au bout d'une dizaine d'années, si jamais on se retrouve à déménager, on ne peut même pas prétendre démonter ces meubles pour pour les remonter dans un autre logement.
En termes de consommation, c'est un peu absurde. Tout à fait.
Et d'acheter des meubles en bois, même si c'est un bois de bas de gamme, mais qui en plus ne risque pas de se retrouver les pieds dans l'eau si on habite dans une vallée, par exemple. Alors qu'un meuble en aggloméré, si jamais il est
tout à fait. Et vous vouliez intervenir aussi sur autre chose, je crois, Françoise.
Oui, sur le jardin.
Oui.
Parce que j'ai entendu un jour une réflexion, je ne sais plus où est-ce que c'était, qui disait que il y avait plus de produits en superficie, j'entends, hein, parce qu'évidemment, faut comparer, c'est comparable. En superficie, il paraît qu'il y a plus de substances toxiques utilisées dans les jardins privés que dans l'agriculture en
règle générale. C'est ça, plus de pesticides utilisés dans les jardins. Voilà. Docteur Jean Lefebvre.
Oui, ça, c'est vrai que les zones périurbaines sont de plus en plus importantes et que c'est dans ces endroits-là qu'il y a des jardins. Ceci étant, l'agriculture industrielle, hélas, utilise quand même beaucoup de pesticides, des pesticides qui souvent sont pas forcément mis à la disposition du public simple. Hein, donc ça, je peux pas vous le confirmer ou vous l'infirmer, hein, mais je pense que le problème se pose effectivement dans les jardins publics, dans les jardins privés, les petits jardins, mais aussi dans
pas simplement dans l'agriculture
mais industrielle.
Hein, mais aussi les jardins privés, c'est important. Merci beaucoup Françoise pour votre intervention. On a Kalilou qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Kalilou, bonjour.
Oui, bonjour Claire, bonjour docteur.
Voilà, vous voulez aussi nous alerter sur cette question des pesticides.
Oui, c'est exact. Chez nous au Mali, beaucoup d'agriculteurs utilisent beaucoup ces produits chimiques. Mais le problème est que lors des grandes pluies, tous ces produits se retrouvent dans les rivières où boivent les troupeaux. Alors je voudrais savoir, y a-t-il un risque à consommer ces animaux? Si oui, quelles sont les précautions à prendre avant de les consommer? Hey,
docteur Jean Lefebvre, c'est intéressant, la forte consommation d'engrais, d'herbicides, de pesticides, ça, effectivement, ça se retrouve sur les légumes, mais est-ce que aussi il y a des conséquences après sur les animaux et donc sur la consommation de viande de ces animaux?
Alors oui, il peut y avoir des conséquences, en particulier dans les céréales qu'on donne aux animaux. Il faut se rappeler quand même que ces céréales, le problème des pesticides se trouve à deux niveaux pour ce qui concerne toutes ces céréales. C'est au niveau de la culture. Hein, ce sont des pesticides qui sont épandus dans les champs, mais il y en a un autre endroit où on utilise encore plus de pesticides. C'est dans les pesticides de stockage. Et là, il y a tout un travail à faire, parce que ces pesticides de stockage, pour empêcher, par exemple, que les charançons viennent rendre impropres à la consommation les céréales, ces pesticides-là représentent une quantité importante. Alors, qu'y a-t-il à faire? Ben, il y a des travaux, il y a toute une politique qui essaie de mettre en place des façons de stocker ces céréales en essayant d'éviter le plus possible des pesticides. Alors il y a des chauffages, du refroidissement, des changements, de l'aération, mais bon, tout ça, on commence à en être conscient. Mm-hmm. Pour ce qui est de la consommation au niveau de la viande, c'est pas tellement les pesticides qui posent problème, c'est aussi les antibiotiques, tous les produits, les hormones pour les faire grossir plus vite et qui passent dans la viande et qui peuvent poser problème.
Sur les antibiotiques, on en a parlé récemment parce qu'on a fait une émission sur la question de la résistance aux antibiotiques et il y a une partie de cette résistance qui est due entre autres au fait de la surutilisation.
La surutilisation parce que ça fait prendre du poids aux animaux.
Merci beaucoup en tout cas Kalilou pour votre question. Juste une dernière question avant les informations, Jean Lefebvre, ces pesticides se retrouvent aussi dans l'eau?
Oui, c'est un grand problème, ça se retrouve dans l'eau et c'est... Le problème, c'est que les stations d'épuration ne peuvent pas forcément toujours enlever ces pesticides et c'est.
Et du coup, on en consomme.
Voilà, hein, donc voilà. Après, on reviendra sur les effets des pesticides. Hein,
absolument, on va y revenir exactement. Vous avez tout à fait raison dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de l'impact des produits chimiques sur notre santé. Je suis désolée, c'est à la seconde près les infos, Jean Lefebvre, mais je vous redonne la parole juste après les infos. Je redonne le téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des produits chimiques sur notre santé. On en parle avec le docteur Jean Lefèvre, qui est cardiologue, médecin de l'association Santé Environnement France. Un téléphone, si vous avez envie de nous appeler pour participer, apporter un témoignage ou poser des questions, le 33 1 84 22 75 75. Docteur Jean Lefèvre, juste avant les informations, on était en train de parler de l'impact des pesticides sur l'eau de consommation, aussi sur les animaux. On va venir après sur la question des légumes que nous consommons. Mais vous aviez envie de rajouter quelque chose et je vous ai coupé la parole à cause des informations. Je vous écoute.
Non, c'était juste pour ajouter un petit point là, à la question de la personne qui était faudée de Normandie là sur les jardins.
Oui, sur l'utilisation de pesticides dans les jardins.
Actuellement, l'OMS vient de déclarer le glyphosate, qui est le pesticide actif du Roundup, comme cancérogène. Donc on voit que c'est bien que ce soit des produits qui sont faits pour les consommateurs occasionnels, ces pesticides ce problème des pesticides est tout à fait d'actualité.
Tout à fait. Et on peut dire que ça a été une sacrée bataille entre guillemets pour faire reconnaître la conséquence cancérogène.
Tout à fait. C'est-à-dire que par exemple pour le glyphosate, c'est un problème économique majeur. La firme Monsanto a développé le glyphosate, qui est un herbicide qui est efficace, mais donc qui paraît cancérogène de façon pratiquement certaine selon l'OMS. Il faut savoir aussi qu'il a développé les OGM, les cultures OGM résistantes au glyphosate, ce qui permet de pulvériser du glyphosate de façon très significative et sans que les plantes théoriquement soient touchées. Ça ouvre aussi le problème sur les OGM. Vous comprenez que les intérêts économiques sont énormes, ce qui explique tous ces freins,
C'est compliqué d'interdire un certain nombre de ces produits. Je voudrais juste vous lire le message de Mahanette qui est de Bamako, Mali, qui dit: à Bamako, on utilise les pesticides et autres engrais de façon excessive. Les pommes de terre, par exemple, sont grosses et belles, mais elles sentent l'urée. Cette alimentation a forcément des conséquences sur notre santé. Moi, j'évite cela. J'ai créé un petit jardin que je cultive sans engrais chimiques ni pesticides et j'ai de très bons légumes. Je trouvais que c'était important de vous lire ce message.
Je pense que c'est quelqu'un qui a bien résumé le problème et qui l'a résolu de façon efficace.
On a au téléphone Aboutiam, qui est biologiste et coordinateur régional de Pesticide Action Network, enseignant à l'Institut des sciences de l'environnement à l'université chez Kanta Diop à Dakar. Aboutiam, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce Pesticide Action Network?
Alors, Pesticide Action Network, c'est un réseau qui a été constitué depuis 100 ans par des organisations de la société civile, des associations à travers le monde, et qui essaye vraiment de prendre en charge les questions liées aux pesticides, les accidents, les intoxications, etc. Mais en même temps...
Ouh là là, la ligne téléphonique est pas bonne du tout. Oui, on vous écoute, Aboutiam.
Et également de promouvoir des alternatives aux produits chimiques.
Oui, c'est ça. Utiliser autre chose que des pesticides. Est-ce que ces pesticides sont utilisés de façon plus importante, finalement, sur le continent africain qu'en Europe? Est-ce qu'il y a un problème de réglementation?
Effectivement, si on prend les quantités, certainement qu'on en utilise moins dans nos pays. Au niveau de la réglementation,
ouh là là, la ligne téléphonique est vraiment très mauvaise. On vous entend plus, on n'entend qu'un mot sur deux. Vous avez eu au téléphone tout à l'heure, la ligne était bonne. On va essayer de vous rappeler. Docteur Jean Lefèvre, on en est où de la réglementation finalement sur l'utilisation de pesticides en Europe? Et qu'est-ce qu'on en sait des conséquences sur la santé?
Mais la réglementation européenne petit à petit se met en place, on va dire, de façon efficace par rapport à d'autres pays, en sachant quand même que le poids des lobbies est quand même très important. On a en face l'industrie chimique, ça n'est pas rien, et l'industrie pharmaceutique. Il suffit de voir les problèmes qu'il y a pour les perturbateurs endocriniens.
Alors expliquez-nous ce que ce sont ces perturbateurs.
Voilà. voilà, endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des produits, sont des effets, on va dire, de nombreux produits, comme le bisphénol, les phtalates, les composés perfluorés, les retardateurs de flamme, enfin il y a les parabènes.
On trouve beaucoup dans des plastiques, en fait.
Il y en a beaucoup, et les pesticides, les PCV qu'on retrouve, oui, tout à fait, dans les plastiques, on en retrouve aussi. Et le problème de ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'en fait, on les trouve partout. Dans la salle de bain, dans les produits de beauté, on en a parlé tout à l'heure, les rouges à lèvres, les maquillages, les fonds de teint, les vernis à ongles, etc. On les retrouve dans les pesticides, il y a beaucoup de pesticides qui ont un effet perturbateur endocrinien. On les trouve dans les plastiques, le bisphénol, bisphénol A, les phtalates, des composés perfluorés. Et ce qui sous-entend en plus que pendant toute la journée, on est confronté, on est en contact avec ces perturbateurs endocriniens, ce qui entraîne des effets qui sont très importants dont on parle pas assez. Ce sont les effets cocktail. C'est-à-dire voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème des perturbateurs endocriniens, c'est qu'on s'aperçoit que leur effet ne dépend pas de la dose. Or, c'est un dogme sur lequel toute la toxicologie a été basée. C'est le dogme de Paracels.
C'est qu'en dessous d'une certaine dose, entre guillemets, la disent les industriels, ce serait pas dangereux.
Voilà.
Mais ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de...
Or, Tout à fait. On s'aperçoit que pour les perturbateurs endocriniens, ça n'est pas vrai, et qu'on a des effets à des doses qui sont infinitésimales, avec des effets qui diminuent quand la dose augmente à un certain moment. Donc, le problème de l'effet dose est posé pour les perturbateurs endocriniens. Voilà. En face de ces substances que l'on retrouve partout, on a l'industrie chimique et l'industrie la pharmacie qui essaye de démonter de freiner les lois et les réglementations concernant ces produits. Il se passe actuellement au niveau européen et au niveau à tous les niveaux l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique utilisent toutes les ficelles et toutes les recettes de l'industrie du tabac il y a quelques années
pour dire que c'est pas dangereux.
C'est tout aussi simple que ça, voilà. Si vous voulez, les intérêts économiques sont tellement importants qu'actuellement, au niveau de la Commission européenne, la législation sur les perturbateurs endocriniens a été freinée et toujours freinée, puisqu'il y a une dernière publication qui soutenait, contrairement à toutes les données scientifiques, que les perturbateurs endocriniens n'étaient pas un gros problème.
On a retrouvé Aboutiam, qui est coordinateur régional de Pesticide Action Network. Aboutiam, vous nous avez expliqué un peu ce que fait ce groupement, le Pesticide Action Network. J'étais en train de vous demander sur la question de l'utilisation des pesticides. Est-ce que cette utilisation est de plus en plus importante sur le continent africain?
Oui, l'utilisation est de plus en plus importante, c'est sûr. Et c'est surtout les conditions d'utilisation qui posent véritablement beaucoup de problèmes. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment...
Et quand vous dites les conditions d'utilisation, c'est-à-dire que les agriculteurs qui les utilisent ne se protègent pas au moment de l'utilisation?
Exactement, ils ne se protègent pas au moment de l'utilisation. La réutilisation des emballages vides de pesticides, etc. Le fait de mal gérer les stocks vides, etc. etc.
Est-ce qu'il y a des pesticides qui sont interdits sur le continent européen et qui sont utilisés en Afrique?
Oui, on en retrouve certainement.
Je pense au chlordécone qui aujourd'hui est interdit. Est-ce que, par exemple, vous le retrouvez sur le continent africain?
Le chlordécone, oui. Dans certaines régions, certainement. Mmh. Mais d'une façon générale, on peut retrouver toujours ces vieux produits qui sont interdits, mais qu'on peut le trouver ça et là.
Oui. Et quelles sont les alternatives que vous proposez? C'est-à-dire, quand vous dialoguez avec des agriculteurs en leur disant qu'il faudrait utiliser moins de pesticides ou pas de pesticides, comment se passe ce dialogue? Est-ce qu'on vous entend dans ce que vous dites?
Ben, on nous entend, mais c'est encore...
C'est difficile.
C'est encore assez difficile parce que les alternatives restent dans beaucoup de cas à élaborer, à expérimenter, à mettre en œuvre. Donc, et la recherche dans ce domaine-là ne suit pas beaucoup, on va dire. Ce qui fait que, on essaie de les sensibiliser sur cette question-là, de se protéger, mais ensuite de voir qu'il y a des stratégies qui existent. Et généralement, la lutte intégrée, par exemple, constitue une voie qui permettrait de réduire, parce que l'objectif est d'abord de réduire les quantités de pesticides et d'améliorer les conditions d'utilisation et ensuite maintenant de passer vraiment à des alternatives bio, etc.
Et ça commence à se développer justement, le bio en Afrique?
Oui, ça commence. Mmh. Ça commence. Il y a vraiment une remontée assez importante, surtout dans les en matière de coton. Vous savez que le coton, c'est la culture sur laquelle on utilise beaucoup de produits. Et en matière d'horticulture aussi, ça se développe.
Et vous avez l'impression que la population a conscience de ces dangers des pesticides?
Oui, une partie, mais je crois que l'effort, il reste encore beaucoup d'efforts à faire, d'information et de sensibilisation sur cette question-là. Il ne s'agit pas simplement des agriculteurs, mais c'est aussi les consommateurs qui sont vraiment, qui ne sont pas à l'abri des problèmes posés par ce produit-là. Vraiment, il y a l'information et la formation, c'est encore nécessaire à grande échelle, on va dire.
Merci beaucoup, Aboutiam. Je rappelle que vous êtes coordinateur régional de Pesticide Action Network et enseignant à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal. Docteur Jean Lefebvre, justement, qu'est-ce qu'on sait de l'impact sur la santé de ces pesticides? C'est-à-dire, nous, quand nous consommons des légumes sur lesquels il y a eu beaucoup de pesticides, qu'est-ce qu'on sait comme conséquence?
Les conséquences des pesticides, elles sont à plusieurs niveaux. Ces pesticides sont cancérogènes. On a des preuves. Il y a un rapport de l'INSERM qui est sorti en 2013 et qui donne l'effet des pesticides sur la santé. Et on a des présomptions fortes, comme on dit, c'est-à-dire des preuves pratiquement certaines, avec la maladie de Parkinson, par exemple, qui est reconnue maladie professionnelle.
Chez les agriculteurs,
les gens qui sont dans l'industrie du stockage, de la manipulation des substances et des produits. Donc c'est cancérogène, avec des lymphomes, avec des myélomes multiples, le cancer de la prostate, en particulier on parlait de la chlordécone tout à l'heure avec le docteur Thiam là, et ben c'est la chlordécone
qui a été utilisée dans
une augmentation des cancers de la prostate très importante.
Dans les
Antilles en particulier.
Et chlordécone qui a été beaucoup utilisé sur les bananes, c'est ça.
C'est ça, c'est pour les bananes, et ça a été utilisé longtemps. Des tumeurs cérébrales, enfin il y a d'autres.
C'est tout à fait reconnu l'impact sur les agriculteurs, vous l'avez dit, reconnaissance en maladie professionnelle sur la maladie de Parkinson, même sur certains cancers. Qu'en est-il pour les consommateurs que nous sommes? Parce qu'en fait, à chaque fois, on entend, mais écoutez, finalement, sur les produits qu'on consomme, il y a très peu de pesticides.
Oui, mais
ça
n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a des produits en particulier qui sont qui portent beaucoup de pesticides, en particulier les pommes, les raisins, qui font que.
C'est ça, les produits qu'on n'épluche pas.
Exactement. C'est-à-dire il y a des produits, et les produits qu'on peut éplucher, ça veut dire qu'il faut les éplucher, et les autres il faut les rincer, il faut les laver. Pourquoi? Parce que les pesticides sont concentrés, on va dire, à la surface et près de la surface, sous la peau, et c'est pour ça qu'il faut peler les pommes, les pêches en particulier aussi, qui sont des fruits qui gardent les pesticides, enfin qui sont soumis à de nombreux pesticides. Pour les pommes, on en a dénombré plus de 30.
On a Claude qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Claude.
Oui, je dis d'abord bonjour au docteur Lefebvre et
oui,
à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Bonjour.
En fait, ma question est la suivante. Ici en Afrique, chez nous particulièrement au Cameroun, les aliments qu'on consomme sont emballés dans des sachets plastiques tout chauds et parfois on les garde longtemps avant la consommation. J'aimerais savoir quel est l'impact de cette habitude dans notre santé.
Oui, c'est une question très intéressante. Docteur Jean Lefebvre, d'abord l'utilisation des plastiques et en plus le plastique chaud, sac en plastique, vraiment, même pas le Tupperware si je puis m'exprimer ainsi.
Le problème est le risque de migration de substances à partir du plastique dans l'alimentation. Ce risque augmente avec la durée de contact, d'une part, et d'autre part, avec la température. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est, on peut garder l'aliment emballé, mais il faut le mettre au froid, il faut le mettre au frigo. Et si on peut enlever le film plastique et le mettre dans un contenant en verre, c'est encore mieux. Donc il faut essayer, dans la mesure du possible, de garder son aliment dans du verre et au froid. Disons que c'est ce que l'on peut conseiller.
Et docteur Lefebvre, justement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez supprimé les boîtes plastiques chez vous ?
J'ai supprimé les boîtes plastiques, pas complètement.
Hein, parce que c'est compliqué en fait.
Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est dans les boîtes plastiques, on peut mettre des aliments qui sont déjà dans du papier ou qui sont sans contact, et puis des aliments, neutres où il n'y a pas d'eau, hein, secs, on dira, le contact sera moins important. Et puis essayer quand même de garder des
boîtes en verre. C'est
des boîtes en verre. Hein, c'est voilà.
Merci beaucoup, hein, Claude, pour cette question qui était importante. On va prendre une dernière question avec Marc qui nous appelle de Kinshasa. En République démocratique du Congo. Marc, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, parlez bien fort près du téléphone pour qu'on vous entende.
Oui, ma question était de savoir si les déodorants utilisés quotidiennement n'ont pas un effet indésirable ou un effet secondaire sur la santé humaine.
C'est ça, c'est une question intéressante, docteur Jean Lefebvre. Effectivement, la question des déodorants ou des parfums pour la peau, quel est l'impact sur la santé ? Quels sont les risques?
Les déodorants et les parfums pour la peau sont des produits dans lesquels on trouve beaucoup d'éléments, en particulier perturbateurs endocriniens d'une part, et d'autre part antibactériens qui peuvent poser problème. Les perturbateurs endocriniens, c'est essentiellement les parabènes, hein, qu'on retrouve dans ces produits, et aussi les sels d'aluminium pour ce qui est des antitranspirants. Donc en règle général, il faut essayer d'éviter les déodorants qui arrêtent la sudation, parce que la sudation c'est quelque chose qui est naturel, hein, donc en particulier au niveau des sels d'aluminium, ça forme un petit bouchon au niveau des canaux sudoripares, et donc c'est pas très bon. Et au niveau des déodorants, essayer de rechercher des produits sans parabènes, si possible. L'autre problème, c'est les problèmes des antibactériens. En particulier, il y a un produit qui est très utilisé et qui est à la fois perturbateur endocrinien et à la fois qui entraînerait des résistances aux antibiotiques. C'est un produit qui s'appelle le triclosan. Il faut essayer d'éviter dans les produits qu'on utilise la présence de ce produit.
Juste une dernière question avant qu'on parle d'une étude, d'un essai clinique sur le baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance. Docteur Jean Lefebvre, je l'ai dit en début d'émission, vous faites partie de l'association Santé Environnement France. Dites-nous quand même un mot de cette association qui réunit justement des professionnels du monde médical.
Ben voilà, c'est une association qui réunit des professionnels de santé, essentiellement des médecins, mais il n'y a pas que des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine. Son rôle, c'est essayer d'être un organisme qui alerte sur les risques, sur ces risques justement de santé dus à tous ces produits avec lesquels on est en contact, à la fois, vous voyez, dans l'air, dans les produits qu'on mange, dans les produits qu'on utilise, dans les cosmétiques, enfin à tous ces niveaux-là. On essaye de se focaliser sur la santé, par exemple pour le réchauffement climatique, on va pas s'occuper de l'augmentation du niveau de l'eau, mais par contre on va essayer d'alerter sur tous les problèmes de santé que risque d'entraîner un jour le réchauffement climatique. Et ça, c'est pour le réchauffement climatique. On essaie de couvrir toute la panoplie des risques de santé dus à l'environnement. Santé.
Merci beaucoup, docteur Jean Lefebvre, et merci à c'est France Bleu Provence qui nous a permis donc d'établir cette liaison avec Aix-en-Provence. Merci à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose de parler des résultats d'un essai clinique allemand, BACLAD, sur le baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance. Professeur Philippe Jory, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes addictologue, vous êtes professeur de médecine générale à l'université Paris-Descartes. Le baclofène, c'est un médicament relaxant habituellement prescrit dans certaines maladies neurologiques. Pourquoi d'abord, avant qu'on parle de cette étude, est-il intéressant dans le traitement de l'alcoolodépendance ?
Eh bien, parce qu'on s'est aperçu d'abord chez les animaux et ensuite chez les êtres humains que c'était une molécule qui permettait de ne pas avoir envie de boire et donc de pouvoir arrêter de la consommation d'alcool quand la consommation est nocive.
Et simplement, on va le voir à une dose plus importante que celle qui est prescrite habituellement. Comment cette étude allemande, BACLAD, a-t-elle été menée avant de parler de ses résultats ?
C'est une étude qui a été menée sur des patients alcoolodépendants qui prenaient une grande dose d'alcool. C'est une étude qui a été menée en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne savait pas ce qu'il prenait, si c'était le baclofen ou un placebo, et le médecin ne savait pas non plus ce qu'il donnait, si c'était le placebo ou le baclofen. C'était tiré au sort, donc les patients sont tirés au sort et ils prennent des comprimés, ils sont suivis pendant 3 mois et on voit les résultats au bout de 3 mois par rapport à l'abstinence.
Alors justement, quels sont ces résultats ?
43% des patients sous baclofène étaient abstinents contre 14% pour le placebo, ce qui fait un rapport de 1 sur 3, ce qui est assez exceptionnel puisqu'aucun médicament n'arrive à ce type de rapport à l'heure actuelle, donc à part le baclofène. On a accusé le baclofène de plein de choses et surtout qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques. Et là, c'est le plus haut niveau de preuves que l'on puisse demander pour une étude double aveugle, tirée au sort. Je pense que là, on a la preuve.
C'est ça, c'est la première étude qui montre ça avec un système de ce que vous dites en double aveugle, c'est-à-dire des gens qui ont reçu un placebo, c'est-à-dire rien du tout.
Alors c'est la première étude à haute dose, c'est-à-dire qu'il y a eu des études qui étaient plutôt ambivalentes à des petites doses, à 30 mg ou 60 mg. Là c'est une étude où les patients ont pris entre 30 mg et 270 mg de produits. Donc c'est la première étude à haut dosage, oui.
Et alors, cette étude a été menée avec comme objectif le maintien de l'abstinence, et j'ai l'impression que vous critiquez un peu cette question-là.
Alors c'est une étude en effet qui a pris des patients qui étaient abstinents. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait un sevrage et après on leur a donné le traitement. C'est une étude aussi qui a exclu des patients, par exemple psychotiques, qui a exclu des patients qui prenaient des neuroleptiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, du subutex, de méthadone. C'est une étude classique, telle qu'on l'a fait souvent à l'hôpital, où, alors à part l'alcool, ils ne pouvaient pas non plus fumer des joints, et voilà, ils avaient le droit de fumer du tabac, mais disons que c'est une étude avec des patients un peu ciblés. Et alors ce qu'on critique, c'est surtout que, d'une part, c'est pas obligatoirement la vraie vie tout le temps, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de patients qui ont des problèmes psychiatriques et qui prennent d'autres médicaments et qui ont des problèmes d'alcool. Et donc ça serait embêtant qu'on puisse pas les soigner cela. Et puis c'est une étude aussi qui part de l'abstinence, alors que un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses pour le traitement pour des patients qui ont des problèmes d'alcool, c'est surtout de s'occuper des patients et de leur laisser la possibilité de boire un peu, c'est-à-dire de diminuer de ce qu'on appelle, nous, limiter la réduction des risques ou la limitation des dégâts. Et donc ça, c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire que pour nous, l'abstinence n'est plus une obligation formelle. Si vous voulez, l'abstinence...
Alors ça l'a été pendant longtemps. Pendant longtemps, les addictologues disaient qu'il ne faut plus rien consommer.
Tout à fait. L'abstinence était un objectif absolu et majeur. Alors que maintenant, l'abstinence, je vais vous dire, c'est une conséquence du traitement. C'est assez extraordinaire avec le baclofène, c'est que ça, des patients qui n'ont pas envie d'être abstinents, finalement, au bout de 3-4 mois de traitement, ils nous disent, bah, vous savez, finalement, je bois plus. Voilà. Et donc, c'est une abstinence passive. Elle n'est pas active, elle n'est pas volontaire, elle est passive, et donc elle est beaucoup plus facile et beaucoup mieux acceptée.
C'est ça, c'est pas un préalable à l'utilisation du médicament.
Absolument pas.
Et ça change la façon d'aborder les choses. Alors, il y a une étude française en cours depuis un petit moment, une étude un peu équivalente à celle menée en Allemagne, et vous y participez à cette étude, vous en êtes où ?
Alors en fait, il y a 2 études en double aveugle tirées au sort randomisées en France. Il y en a une qui s'appelle Alpadir et qui a été menée par le professeur Reynaud et qui est un peu similaire à l'étude allemande, c'est-à-dire qu'il fallait être abstinent, qu'il y avait un certain nombre de patients qui n'étaient pas pris en compte parce qu'ils avaient trop de médicaments ou qu'ils avaient des problèmes de comorbidité d'autres maladies importantes, et qui étaient limitées à 180 mg. Et puis, donc l'étude, elle est terminée, elle est en cours de travail pour les analyses.
Et ça prend du temps, en fait, hein, c'est ça.
Ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir que l'étude allemande, elle a été déclarée sur les sites américains où on déclare toutes les études importantes en 2010. Et donc là, on est en 2015.
Et, donc il faut 5 ans. Et les vôtres, elles ont démarré quand?
Elles ont démarré en 2012. Ouais. Mais en 2011-2012. Mais on aura les résultats avant 5 ans, j'espère. En tout cas, ça explique qu'on ne les a pas tout de suite.
Tout à fait. Donc si première étude dont vous nous avez parlé, Alpadir, et la deuxième étude?
Baclofville, donc c'est celle que je coordonne, c'est celle que j'ai montée, qui est une étude qui est complètement différente. D'abord parce qu'elle est menée en soins ambulatoires par des médecins généralistes, qui est multicentrique.
Alors ambulatoire, pour qu'on comprenne bien, ce sont justement pas des patients hospitalisés. Ils sont dans la vraie vie.
Des patients qui sont suivis par des médecins généralistes, c'est par leur médecin traitant. L'étude allemande, elle est unicentrique, uniquement dans un centre. La nôtre, elle est multicentrique, c'est-à-dire qu'elle est dans toute la France. L'étude allemande, il y avait 56 patients. La nôtre, elle a 320 patients. L'étude allemande, c'était 3 mois. Bacleville, c'est 1 an. Par contre, au niveau des doses, c'est pareil. Nous, on monte jusqu'à 300 mg. Et puis, ce sont des patients qui peuvent aussi bien fumer du cannabis que d'être opiumane, que de prendre du Subutex, avoir des neuroleptiques. C'est-à-dire que c'est vraiment le patient tout venant. C'est ce qu'on appelle une étude pragmatique.
Et ça, vous aurez les résultats quand ? Ou vous nous donnerez les résultats quand ?
Il faut savoir qu'actuellement, on est en train de travailler encore sur la base. On a plus de 700 000 données. Chaque patient a à peu près 2300 variables, ce qui est énorme. Et on va commencer à travailler sur les résultats à partir du mois de fin avril, je pense. Et il faut compter quelques mois pour avoir les résultats complets.
Voilà. La rentrée en septembre.
Je pense que c'est plus raisonnable de dire ça.
On en reparlera avec vous. Hein. On fera une émission dans le courant du mois d'août sur toutes ces questions-là. Oui. Et on parlera entre autres, parce qu'on sait que ça peut aussi être utilisé dans le cas de troubles du comportement alimentaire, mais de façon, attention, très, très restrictive sur le Conseil des médecins. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on en parlera quand vous viendrez au mois d'août. Et lundi, on parlera des questions de couple. Quels sont les secrets des couples qui durent ? Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Bon week-end.